car de toute l'armoire, ce coin-là seul était en ordre. Lorsque Pascal, monté sur la chaise, eut trouvé le dossier qu'il cherchait, une des chemises les plus bourrées, où était inscrit le nom de Saccard, il y ajouta la note nouvelle, puis replaça le tout à sa lettre alphabétique. Un instant encore, il s'oublia, redressa complaisamment une pile qui s'effondrait. Et, comme il sautait enfin de la chaise, « Tu entends, Clotilde, quand tu rangeras, ne touche pas au dossier là-haut. »«
Bien, maître, » répondit-elle pour la troisième fois, docilement.
Il s'était remis à rire de son air de gaieté naturelle.
« C'est défendu !»«
Je le sais, maître !» Et il referma l'armoire d'un vigoureux tour de clé, puis il jeta la clé au fond d'un tiroir de sa table de travail. La jeune fille était assez au courant de ses recherches pour mettre un peu d'ordre dans ses manuscrits. Et il l'employait volontiers aussi à titre de secrétaire. Il lui faisait recopier ses notes lorsqu'un confrère et un ami, comme le docteur Ramon, lui demandaient la communication d'un document. Mais elle n'était point une savante. Il lui défendait simplement de lire ce qu'il jugeait inutile qu'elle connût. Cependant, l'attention profonde où il la sentait absorbée finissait par le surprendre. « Qu'as-tu donc à ne plus desserrer les lèvres ? La copie de ces fleurs te passionne à ce point ?» C'était encore là un des travaux qu'il lui confiait souvent, des dessins, des aquarelles, des pastels, qu'il joignait ensuite comme planche à ses ouvrages. Ainsi, depuis 5 ans, il faisait des expériences très curieuses sur une collection de roses trémières, toute une série de nouvelles colorations obtenues par des fécondations artificielles. Elle apportait, dans ces sortes de copies, une minutie, une exactitude de dessin et de couleur extraordinaire, à ce point qu'il s'émerveillait toujours d'une telle honnêteté, en lui disant qu'elle avait une bonne petite caboche ronde, nette et solide. Mais cette fois, comme il s'approchait pour regarder par-dessus son épaule, il eut un cri de comique fureur. « Ah ! Va te faire fiche ! Te voilà parti pour l'inconnu ! Veux-tu bien me déchirer ça tout de suite ?» Elle s'était redressée, le sang aux joues, les yeux flambants de la passion de son œuvre, ses doigts minces tachés de pastel, du rouge et du bleu qu'elle avait écrasé. « Oh, maître !» Et dans ce « maître » si tendre, d'une soumission si caressante, ce terme de complet abandon dont elle l'appelait, pour ne pas employer les mots d'oncle ou de parrain qu'elle trouvait bête, passait pour la première fois une flamme de révolte, la revendication d'un être qui se reprend et qui s'affirme. Depuis près de 2 heures, elle avait repoussé la copie exacte et sage des roses trémières, et elle venait de jeter sur une autre feuille toute une grappe de fleurs imaginaires, des fleurs de rêve, extravagantes et superbes. C'était ainsi parfois, chez elle, des sautes brusques, un besoin de s'échapper en fantaisie folle au milieu de la plus précise des reproductions. Tout de suite, elle se satisfaisait, retombait toujours dans cette floraison extraordinaire, d'une fougue, d'une fantaisie telle que jamais elle ne se répétait, créant des roses au cœur saignant, pleurant des larmes de soufre, des lys pareils à des urnes de cristal, des fleurs même sans forme connue, élargissant des rayons d'astres, laissant flotter des corolles ainsi que des nuées. Ce jour-là, sur la feuille sabrée à grands coups de crayon noir, c'était une pluie d'étoiles pâles, tout un ruissellement de pétales infiniment doux. Tandis que, dans un coin, un épanouissement innommé, un bouton au chaste voile s'ouvrait.
« Encore un que tu vas me clouer là !» reprit le docteur en montrant le mur où s'alignaient déjà des pastels aussi étranges.
Mais qu'est-ce que ça peut bien représenter? Je te le demande. »
Elle resta très grave, se recula pour mieux voir son œuvre.
« Je n'en sais rien, c'est beau. »
À ce moment, Martine entra, l'unique servante, devenue la vraie maîtresse de la maison, depuis près de 30 ans qu'elle était au service du docteur. Bien qu'elle eût dépassé la soixantaine, elle gardait un air jeune, elle aussi, active et silencieuse, dans son éternelle robe noire et sa coiffe blanche, qui la faisait ressembler à une religieuse, avec sa petite figure blême et reposée, où semblaient s'être éteints ses yeux couleur de cendre. Elle ne parla pas. Elle alla s'asseoir à terre devant un fauteuil, dont la vieille tapisserie laissait passer le crin par une déchirure. Et tirant de sa poche une aiguille et un écheveau de laine, elle se mit à la raccommoder. Depuis 3 jours, elle attendait d'avoir 1 heure pour faire cette réparation qui la hantait.
« Pendant que vous y êtes, Martine !» s'écria Pascal plaisamment, en prenant dans ses 2 mains la tête révoltée de Clotilde. « Recousez-moi donc aussi cette caboche-là qui a des fuites !»
Martine leva ses yeux pâles, regarda son maître de son air habituel d'adoration.
« Pourquoi, monsieur, me dit-il cela ?»«
Parce que, ma brave fille, je crois bien que c'est vous qui avez fourré là-dedans, dans cette bonne petite caboche ronde, nette et solide, des idées de l'autre monde, avec toute votre dévotion. »
Les 2 femmes échangèrent un regard d'intelligence.
« Oh, monsieur, la religion n'a jamais fait de mal à personne, et quand on n'a pas les mêmes idées, il vaut mieux n'en pas causer, bien sûr. »
Il se fit un silence gêné. C'était la seule divergence qui, parfois, amenait des brouilles entre ces 3 êtres si unis, vivant d'une vie si étroite. Martine n'avait que 29 ans, 1 an de plus que le docteur, quand elle était entrée chez lui, à l'époque où il débutait à Plassans comme médecin dans une petite maison claire de la ville neuve. Et, 13 années plus tard, lorsque Saccard, un frère de Pascal, lui envoya de Paris sa fille Clotilde, âgée de 7 ans, à la mort de sa femme et au moment de se remarier, ce fut elle qui éleva l'enfant, l'amenant à l'église, lui communiquant un peu de la flamme dévote dont elle avait toujours brûlé, tandis que le docteur, d'esprit large, les laissait aller à leur joie de croire, car il ne se sentait pas le droit d'interdire à personne le bonheur de la